Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. En ce début de nouvelle année, je vous présente tous mes vœux et on constatera que c'est l'occasion de faire des paroles, ce qui est l'intitulé de l'émission de ce jour. Donc les vœux sont des paroles, mais on va rappeler aussi que il y a des souhaits qui sont faits et on va parler des souhaits qui n'étaient pas ceux du Nouvel An, mais qui étaient ceux de la fin de l'année passée du président de la République qui portait sur les paroles et l'information. Alors, évidemment, nous sommes sur une radio où la parole est essentielle, plus que l'image, et les mots du président ont un sens, et un sens assez curieux, puisque il s'agissait d'établir, on peut dire, une surveillance sur les médias, et de distinguer ce qui est les bons médias des mauvais médias, c'est-à-dire qu'il y avait une information qui était juste, vérifiée, tamponnée, estampillée, et à l'inverse, une qui serait, on peut dire, dissidente, qui n'aurait pas les vertus de la vérité, qui serait fausse, et bien évidemment, on reprend à ce sujet les critiques que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, ce qui me paraît bien facile parce que on peut dire que les mensonges, les complots n'ont pas attendu Internet pour fleurir dans les sociétés humaines et qu'ils sont même, on peut dire, consubstantiels à la libre parole. Donc, il y a une surprise par rapport à cela, et il est évident que ceux qui dénoncent les propos faux des autres sont supposés, eux, les avoir absolument justes. Et alors, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà développé, et qui est celui de la reconstruction de Notre-Dame, puisque on l'a appelé ainsi, et justement de faire une petite analyse du vocabulaire et de revenir sur ce qui semblerait ait fait l'unanimité des médias. Alors justement, on est, par rapport à des débats, là on est sur unanimité d'ailleurs très surprenante. Personnellement, ça me dérange un peu justement quand il n'y a pas de débat et d'unanimité. Alors on va ici avoir ce rôle peut-être des critiques, des mauvais coucheurs, des impertinents pour reprendre cela. Alors, le phénomène récent, c'est qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui, on peut dire, clôturait la mission après la réouverture de Notre-Dame. Et ce rapport de la Cour des comptes, contrairement à l'habitude, puisque, comme l'on sait, les sages de la rue Cambon ont comme mission d'être critiques par rapport aux dépenses publiques et à l'usage qu'il en a fait. Donc c'est quelque chose qui est assez rare où on a la Cour des comptes qui félicite le chantier de Notre-Dame et donne un satisficie, évidemment, aux différents intervenants et, de ce fait, au gouvernement et au président de la République qui s'en est servi pour, on peut dire, entre guillemets, sa gloire personnelle. Et l'ouverture que tout le monde a vue était un moment, on peut dire, d'unité nationale, et non seulement d'unité nationale, mais d'unité internationale, puisque on avait des personnalités, des têtes couronnées, et le président Trump qui était venu pour cette cérémonie qui apparemment était retransmise mondialement. Alors, le rapport de la Cour des comptes emploie dans ses louanges le fait que on avait résolu un des problèmes de délais contraints et de coûts maîtrisés. Alors, ça me semble assez étonnant que l'on puisse faire un rapport sur le fait que on a maîtrisé les coûts et qu'on a respecté les délais. C'est comme si on donnait des médailles pour les trains qui arrivent à l'heure et les gens qui ont accompli leur travail, que le boulanger soit arrivé à faire du pain, que les policiers aient arrêté des bandits, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est ce terme de délai contraint. Mais il faut rappeler une chose, c'est que dans le bâtiment, les délais sont toujours contraints. Ce n'est pas vous commencez un chantier, puis vous finissez quand vous voudrez, puis alors pour l'argent, vous en faites pas, on paiera ce qui bon vous semblera. Un marché d'entreprise, un marché qui est supervisé par un architecte, dont ça s'appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, c'est le client, dans le cas présent, c'est l'État. Et les délais sont compris dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. C'est le fondement même. C'est-à-dire on doit respecter l'ouvrage tel qu'il a été défini dans le marché et avec la contrainte du délai et du maintien des coûts. Alors, quand les délais ne sont pas respectés, il y a des pénalités. Les pénalités de retard, ce n'est pas un vain mot qui s'applique aux entreprises qui ne respecteraient pas, pour des raisons ou pour une autre, les délais sur lesquels ils se sont engagés dans le cahier des charges et sur le planning des travaux, puisque ce sont les mots ainsi. Et il est évident que la maîtrise des coûts peut faire à la fois être une responsabilité de l'architecte si le coût n'est pas maîtrisé, auquel cas il y a les pénalités, non-paiement des honoraires et des pénalités afférentes. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se passe tous les jours dans les marchés publics et dans les marchés privés. On a un coût annoncé et puis ça ne se passe pas uniquement que dans le bâtiment. Je veux dire que quand on construit un Airbus, on ne sait pas quand ça va se terminer et quel prix on va annoncer au client. Toute l'industrie fonctionne avec des délais contraints et un coût maîtrisé. Donc, on peut s'étonner ces éléments-là aient pu être un motif de félicitations et de distribution de médailles, puisqu'il en fut ainsi pour les ouvriers et par les entreprises. Non pas que je mette et que je chipote sur le fait qu'on ait distribué des médailles aux ouvriers, mais on devrait les distribuer à tous les ouvriers du monde et tous les ouvriers de France et tous les artisans du bâtiment qui font leur travail et qui mériteraient aussi des félicitations. Donc, On me dira, oui, mais c'était un chantier exceptionnel. Alors, c'est là la question de l'exceptionnel. Il s'agit d'un chantier qui a été, et là on en vient au mot, qui a été baptisé Rebâtir Notre-Dame. Il y a eu un comité qui s'appelait Rebâtir Notre-Dame. Alors, puisque on en revient au problème de l'emploi des mots, alors rebâtir, en français, c'est un mot bien clair. C'est-à-dire, c'est démoli et on rebâtit tel que ça a été, ou éventuellement modifié, mais rebâtir, c'est partir de rien et construire. Il en est de même du mot reconstruction qui a été employé pour la reconstruction de Notre-Dame. Notre-Dame n'a pas été reconstruite. Notre-Dame était toujours debout, même si la flèche de Viollet-le-Duc avait brûlé et devant les télévisions du monde entier. Donc, il y a justement, puisque l'on parle de l'emploi des mots et des fausses nouvelles, déjà quelque chose qui me paraît assez gênant sur l'emploi des termes qui sont totalement faux. Alors, il faut ramener les choses à leur réalité. Je fais un rappel des faits. Il y a eu un incendie, effectivement. Cet incendie a fait tomber, a brûlé la charpente à la fois qui était au-dessus de la nef et la charpente de la flèche. La flèche, en s'effondrant, a fait un trou dans la voûte. Ce trou, ou deux trous dans la voûte, qui ne représente que 15% de la voûte entière. C'est-à-dire que ramené au, on peut dire, à la surface du bâtiment. Le bâtiment comprend deux tours, une façade avec le porche, des murs latéraux et aussi les arcs-boutants qui sont en forme demi-circulaire sur le cœur et latéralement de part et d'autre. Donc il s'agit de beaucoup de surfaces et ces surfaces n'ont pas été touchées par l'incendie et ont été toujours debout. Alors, on dit oui, mais il y avait un risque puisqu'on a remis des arcs-boutants. Dans les arcs-boutants, on a mis des formes, des étais en bois. Alors, on avait parlé de risque d'effondrement. Alors, ça me paraît assez surprenant. Ou ça s'effondre, ou ça ne s'effondre pas. Ou alors, il y a des éléments qui fléchissent et auquel cas il faut démolir, reconstruire, mais il n'en était pas le cas. Donc on peut penser que le risque d'effondrement on peut dire, exagéré par rapport à la réalité. On va marquer une pause musicale et puis je vais reprendre sur ce sujet qui, comme vous le voyez, me tient à cœur et j'espère que vous partagez également mon questionnement. Thank you. Parlions donc de paroles et de mots. Alors, pour cette reconstruction, fausse reconstruction, puisqu'il s'agissait, comme je vous le disais, non pas de rebâtir Notre-Dame, mais de réparer, de restaurer un bâtiment qui a eu des dommages dus à un incendie. Bon, notamment l'incendie de la charpente, ce qui n'est pas quelque chose d'inhabituel dans l'histoire des bâtiments et qui d'ailleurs n'aurait jamais dû arriver avec les moyens modernes que nous avons de détecter les incendies, mais c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Alors on reste dans le vocabulaire et dans les journaux, notamment il y avait un article dans le parisien qui parlait d'opérations titanesques, et on employait le mot titan. Rappelons ce qu'étaient les titans, qui étaient les créatures mythiques de l'Antiquité, et auxquelles on attribuait justement tous les chantiers énormes, et notamment les complotistes pensent que ces créatures mythiques qui ont construit la grande pyramide de Khéops, parce que on bute sur son explication, et les titans auraient été les créatures énormes qui auraient pu monter des pierres aussi haut. Alors, il est évident que tout ça est assez ridicule, puisqu'il s'agit, en fin de compte, des travaux de confrontation, et il faut dire que des chapelles qui ont des trous dans les voûtes, des bâtiments anciens qui ne sont pas forcément des bâtiments religieux. Dans notre France, il faut rappeler qu'il y a 40 000 églises et autant de châteaux, sans parler de bâtiments qui sont des bâtiments de patrimoniaux et qui ne sont ni des châteaux ni des églises, et qui fait de notre pays un des pays qui a le plus grand patrimoine architectural visitable et qui est un des attraits touristiques de notre pays. Donc il me paraît totalement surprenant, on peut dire, que ces deux trous dans la voûte de Notre-Dame est apparu comme quelque chose d'absolument exceptionnel, attendu que les réfections de toiture et de voûte sont, on peut dire, monnaie courante dans notre pays. Donc, les artisans qui ont fait cela n'étaient pas des artisans que l'on est allé retirer d'une retraite et où on imagine qu'il n'y avait plus de tailleurs de pierre, etc. Tout ça est évidemment faux, puisqu'il y a des entreprises qui restaure en permanence, et puis même d'ailleurs, les matériaux comme la pierre continuent d'être employés dans les bâtiments modernes, que ce soit aujourd'hui, il y a une résurgence de murs en pierre massive, mais il y a de la pierre qui est posée en façade, et moi-même en tant qu'architecte, j'avais compté justement, pour faire l'émission, que j'avais réalisé 10 bâtiments avec de la pierre sur toute la façade. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, et c'est une bonne chose que nous ayons toujours des savoir-faire qui continuent d'être employés. Alors, c'est d'autant plus surprenant que on peut dire la réfection de Notre-Dame apparaît comme un tour de force singulier, attendu que en permanence il y a dans notre pays probablement des travaux de réfection, de reconstruction qui sont plus habiles, plus hardis, qui demandent des savoir-faire de sculpteurs que, fort heureusement d'ailleurs, Notre-Dame n'a pas eu besoin, puisque, faut-il le rappeler, l'essentiel des parties sculptées, notamment les tours et la façade principale avec les statues, n'a pas été touché par le sinistre, et que le sinistre ne portait qu'une part sur les parties invisibles qui étaient la charpente et sur des éléments de la voûte, mais qui étaient des éléments d'ailleurs qui étaient cachés par du plâtre. Et donc, il n'y avait pas de partie essentielle sur un plan, on peut dire, artistique, qui a été touchée, et que les travaux ont porté sur du nettoyage dû à la suie, à la fumée de l'incendie. Également, le grand orgue de Cavaillé n'a pas été touché par les flammes, mais il a dû avoir un nettoyage complet. Bon, tout cela fait partie des travaux. Donc, pour en revenir au délai contraint, les 5 ans qui apparaissent comme un exploit, 5 ans, ce n'est pas du tout un exploit pour un chantier qui, en fin de compte, n'aurait pas dû être aussi important. Et je pense, et là je vais en venir, que s'il y avait eu des esprits critiques et non pas ces commentaires énamourés par rapport à l'émotion sur Notre-Dame, qui effectivement, dans l'imaginaire français, un bâtiment très important, et si on avait eu un peu plus de distance et d'objectivité, là on en revient aussi à l'information et à une information qui soit, on peut dire, je ne sais pas si on peut employer le mot honnête, mais en tout cas rationnel, et où on évacue l'émotion, on aurait noté les points que je mets en avant, qu'il y a eu un délai de 5 ans qui n'était pas un délai court du tout, qu'on réalise en France aujourd'hui des travaux de réfection qui sont faits dans des délais très courts et que nos entreprises sont habituées à cela, et donc que le soi-disant exploit n'en était pas un. Alors, pour terminer aussi sur sur les coûts, et les fameux coûts maîtrisés, il faut dire qu'il y a eu une collecte, un appel aux dons qui ont produit leur effet. Encore une fois, je parlais de l'émotion, du fait que ce soit Notre-Dame de Paris avec toute son histoire, à la fois l'histoire des roi de France, mais également le romanesque Victor Hugo, son roman Notre-Dame de Paris, avec ce qui a été fait ensuite avec les films de Sica, et puis aussi l'opéra Notre-Dame de Paris. Donc il y a de toute une sorte d'aura sentimentale et artistique qui est autour de ce bâtiment, et qui peut expliquer l'émotion et aussi le fait que les dons soient arrivés. Alors, on peut quand même être surpris que la région la région Occitanie ait pu donner 1,5 million, entendu que les dons des privés étaient suffisants sans que nos impôts servent pour cela, puisqu'il y avait suffisamment de dons privés. Et là, je vais faire de mauvais esprit, je pense que une grande partie des travaux qui ont été réalisés à Notre-Dame étaient aussi pour utiliser les fonds, et que l'utilisation des fonds, ce sont des honoraires pour l'architecte responsable. On va donner son nom, qui est assez amusant d'ailleurs, pour un architecte de bâtiments de France qui s'occupe des bâtiments anciens. C'était Philippe Maisonneuve, et ça ne s'invente pas. Et à la lecture du rapport que vous pouvez trouver sur Internet de la Cour des comptes, vous trouverez qu'il avait fait des demandes pour des surdemandes d'honoraires, parce qu'en fin de compte, c'est un fonctionnaire qui est payé, bien payé, et qu'il y a une disposition spéciale pour, en contrevenant à la règle des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il peut exercer à titre privé. Et cela, c'était pour qu'il y ait, dans une époque où les architectes gagnaient beaucoup d'argent, ce qui n'est pas l'époque actuelle, qu'on ait des architectes de qualité qui ne dédaignent pas la fonction publique. Donc on leur avait donné cela. Et dans le cas présent, il a eu des honoraires, et les honoraires, évidemment, sont considérables en plus de son salaire, qui aussi n'est pas rien du tout. Donc il y a des intérêts privés dans cette aventure qui me paraissent un peu choquants, et on peut dire que un grand nombre d'interventions, notamment ces interventions pour des risques d'effondrement, je ne vois pas pourquoi il y avait des risques d'effondrement sur les arcs-boutants qui n'étaient absolument pas touchés par l'incendie, et aussi et on pourra y revenir aussi dans d'autres émissions, pourquoi avoir refait la charpente à l'identique, c'est-à-dire non seulement à l'identique, mais en faisant appel à des chaînes, le même bois et les outils d'époque, ce qui évidemment a un coût, et attendu que cette charpente n'ait pas vu, qu'elle aurait pu être réalisée avec les matériaux d'aujourd'hui. Alors ça aurait pu être du bois lamellé collé, ça aurait pu être du béton, il y a des bétons légers actuellement de grande qualité, il y a aussi du métal, et la cathédrale de Chartres a été refaite en métal. Vous ne le voyez pas puisque la charpente est cachée. Alors c'est assez surprenant parce que d'autre part on va employer les techniques modernes parce que les élévateurs, c'est pas avec des cordes et des poulies que l'on monte, et également quand il faut faire des opérations dans le sol, on fait des remorcements avec des injections de béton, et là on n'a pas peur d'employer des matériaux modernes comme les revêtements de murs pour assécher les pierres, etc. Enfin, il y a fort heureusement nos techniques d'aujourd'hui qui viennent renforcer cela. Et là, pourquoi a-t-on fait sur quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt on peut dire pour touristique et patrimonial, de refaire avec des outils d'époque une charpente à l'identique. Donc, je vais terminer justement sur cette causerie de début d'année, qui était, comme je vous l'ai dit en tout début, sur l'emploi des mots, mais les mots, comme je viens de le développer, ont un sens et servent des fois à cacher la vérité. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui était à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.